VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 24 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Georges Billon.
Nous commençons par les titres.
En RDC, l'opposition qualifie d'insulte à la dignité du peuple le récent discours du président Joseph Kabila devant le Parlement et pose des préalables.
En Angola, nouveau bras de fer entre le successeur d'Eduardo dos Santos et la fille de l'ex-président.
Le président chinois Xi Jinping aujourd'hui en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS après le Rwanda et le Sénégal.
Le ton monte par tweets interposés entre Washington et Téhéran.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, le parti de Jean-Pierre Bemba a annoncé pour le 1er août le retour à Kinshasa de l'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba. Il a déjà été investi candidat à la présidentielle du 23 décembre après son acquittement par la Cour pénale internationale, la CPI. Monsieur Bemba avait été condamné en 2016 à 18 ans de prison pour des exactions commises par sa milice en Centrafrique au début des années 2000. Début juillet, un procureur de la CPI a demandé un maximum de 5 ans de prison dans une affaire annexe de subornation de témoins. Ses avocats plaident la relaxe. La CPI n'a donné aucune date pour l'annonce du verdict, a noté le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle à partir de mercredi jusqu'au 8 août.
RDC toujours, l'opposition a qualifié d'insulte à la dignité du peuple congolais le récent discours du président Joseph Kabila. Elle a ainsi annoncé des actions sur le terrain pour appeler au respect de la Constitution. Réunis ce lundi, les principaux partis et regroupements de l'opposition ont par ailleurs rappelé leurs conditions pour des élections démocratiques et apaisées, des élections qu'ils n'entendent pas boycotter tout en posant des préalables. Les détails avec Thierry Kamundi de Topcomo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans une déclaration conjointe signée par l'UDPS de Félix Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe, Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, le MLC de Jean-Pierre Bemba et la dynamique de l'opposition que dirige Martin Fayoulou, l'opposition qualifie le message à la nation du président Kabila d'un discours totalement déconnecté des réalités de la RDC. Nous l'avons reçu comme une véritable insulte à la dignité du peuple congolais. Le président a dit sa passion pour quel Congo? Un Congo où règne la corruption, le pillage systématique des ressources naturelles? S'est interrogé Delice Sanga, secrétaire général d'Ensemble pour le changement, qui a lu la déclaration. Pour un processus électoral crédible et apaisé, l'opposition rappelle comme condition un fichier électoral fiable, le rejet de la machine à voter, la libération des prisonniers emblématiques et le retour des exilés et le remplacement du délégué de l'UDPS à la CENI. Elle dit par ailleurs non à un prétendu troisième mandat de Joseph Kabila et annonce des actions communes qui seront communiquées incessamment pour imposer le respect de la Constitution et de l'avènement de l'alternance en RDC. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Chez les voisins angolais de la RDC, nouveau bras de fer entre le président et la fille de son prédécesseur, Isabel Dos Santos, a dénoncé l'annulation par le nouveau chef de l'État, João Lourenço, d'un contrat accordé à l'une de ses sociétés, les précisions de Raïssa Girondin.
Dans un communiqué, Atlantic Ventures, propriété d'Isabel Dos Santos, a riposté en assimilant la décision du gouvernement d'annuler son contrat à une expropriation. Elle exige le paiement d'indemnités impliquant des coûts supplémentaires pour l'État. En août 2017, quelques semaines avant la prise en fonction de João Lourenço, l'État angolais avait octroyé à la société Atlantic Ventures la construction d'un port en eau profonde à Baradodende dans le nord-ouest. Le gouvernement avait émis une garantie d'État de 1,5 milliard de dollars afin de lui permettre de commencer sans tarder les travaux. Mais le mois dernier, Lourenço a publié un décret abrogeant la concession accordée à Atlantic Ventures pour ne pas avoir respecté les dispositions légales d'une loi sur les marchés publics, en clair, d'avoir bénéficié du contrat sans appel d'offres. Le ministère des Transports a justifié l'annulation du contrat en affirmant que la société de Madame Dos Santos n'avait aucune expérience en matière de construction et en jugeant peu crédible son plan de financement du projet.
Le président chinois Xi Jinping ce mardi à Johannesburg pour participer au sommet des BRICS. Hier à Kigali, il a signé avec le Rwanda 15 accords. C'était à l'occasion de la deuxième étape de la tournée africaine du président chinois. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ces accords concernent principalement des prêts pour la construction de routes, la rénovation d'hôpitaux et le développement du nouvel aéroport rwandais de Busegera. Leurs montants n'ont pas été dévoilés, mais totalisent plusieurs millions de dollars. Prochaine étape, Johannesburg, pour participer à un sommet des 5 pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Depuis sa prise de fonction, Xi Jinping a pris en main les efforts visant à renforcer l'influence chinoise en Afrique. La Chine a d'ores et déjà fourni d'importants financements au continent, comme la construction du nouveau siège de l'Union africaine à Addis Abeba. La présence de plus en plus accrue de fonds chinois en Afrique suscite des craintes quant à la capacité des États pauvres à gérer leurs dettes croissantes. Le Rwanda, qui connaît l'un des taux de croissance les plus forts d'Afrique, a échangé pour quelque 157 millions de dollars de biens avec la Chine l'année dernière, plaçant Kigali parmi les premiers partenaires du géant asiatique sur le continent. Xi Jinping s'est rendu la semaine dernière au Sénégal, où il a également conclu une série d'accords commerciaux.
Les terroristes ne sont plus capables de conduire des opérations d'ampleur, a estimé lundi à Ouagadougou le commandant de l'opération Barkhane, le général Bruno Guibert, assurant que l'opération sera maintenue jusqu'à l'éradication de la menace terroriste. Il a fait sa déclaration à l'issue d'une audience avec le président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore. Le général Guibert s'est également félicité de l'engagement très fort des armées du G5 Sahel.
En Guinée équatoriale, deux partis d'opposition ont refusé hier de signer le document marquant la fin du dialogue national, invoquant notamment le non-respect d'une amnistie pour les opposants. Il s'agit de Convergence pour la démocratie sociale et du parti Union du Centre Droit, les deux seuls partis d'opposition parmi les 16 ayant participé à ce dialogue.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ton est monté d'un cran entre Donald Trump et les dirigeants iraniens par tweet interposé. Le président américain Donald Trump a lancé une mise en garde d'une rare virulence contre l'Iran, à laquelle Téhéran a répondu du tac au tac, dans un registre évoquant celui utilisé il y a un an face à la Corée du Nord. Le président américain a appelé l'Iran à ne plus jamais menacer les États-Unis au risque d'en subir les conséquences. « Nous ne sommes plus un pays qui supporte vos paroles démentes de violence et de mort. Faites attention », a-t-il écrit dans un message adressé à son homologue iranien Hassan Rouhani.
« Faites attention », lui a rétorqué quelques heures plus tard, exactement sur le même mode, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammed Javad Zarif. Interrogé sur les motivations du président, sa porte-parole, Sarah Sanders, a souligné que son objectif ultime était de s'assurer que Téhéran n'obtienne pas l'arme nucléaire et la protection des Américains. M. Rouhani avait conseillé auparavant aux dirigeants américains de ne pas jouer, et je cite, avec la queue du lion, et assurer qu'un conflit avec l'Iran serait, citation encore, la mère de toutes les guerres.
Par ailleurs, le président Trump, plutôt frustré, envisage de retirer à 6 anciens hauts responsables de services de renseignement et de l'ordre et de la loi leur habilitation de sécurité, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à des informations sensibles. Ce sera apparemment en réaction à leur critique contre M. Trump, parmi eux l'ex-directeur de la CIA, John Brennan, sur le récent sommet avec le russe Vladimir Poutine et aussi l'ex-directeur du FBI, James Comey. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a dit hier à la presse que ces derniers ont politisé et dans certains cas monnayé leurs fonctions publiques et leur habilitation de sécurité à telle. Et elle a ajouté, c'est extrêmement inapproprié, la plupart des mises en cause apparaissent régulièrement à la télévision.
D'autre part, le président Trump a soutenu hier qu'il n'a rien cédé à M. Poutine lors de leur rencontre la semaine dernière à Helsinki, mais on dispose de très peu de détails sur ce tête-à-tête entre les deux leaders. Il a de nouveau attaqué la presse pour sa couverture négative, la qualifiant de fake news, c'est-à-dire de fausses nouvelles.
M. Trump a également utilisé « fausse nouvelle » dans un autre tweet en se disant au contraire très heureux en parlant de la Corée du Nord. Il réagissait à des informations selon lesquelles il serait frustré par l'absence de progrès sur le dossier depuis son sommet historique avec le leader nord-coréen Kim Jong-un le 12 juin dernier. Le site 38 North a annoncé hier soir que de récentes images satellites montrent que la Corée du Nord a commencé à démanteler un site de lancement de satellites, ce qui pourrait représenter un premier résultat de ce sommet.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé hier à la Birmanie de redoubler d'efforts, notamment via un développement social et économique afin de créer les conditions propices à un retour sûr, volontaire et digne des réfugiés Rohingyas.
Vous écoutez VOA Afrique, fin de ce journal.
La Minute Éco. Irénée Herman Ungbo.
Au Nigeria, l'Office de gestion de la dette envisage d'émettre des obligations vertes pour un montant global de 208 milliards de naira, soit environ 682 millions de dollars avant fin 2018. Selon le ministre nigérian délégué à l'environnement Ibrahim Djibril, cette prochaine émission d'obligations vertes permettra de financer des projets visant à réduire les émissions de carbone. En Afrique centrale, la Commission bancaire régionale s'est fixée, entre autres objectifs, de recapitaliser les établissements de microfinance d'ici à 2021, y compris le renforcement des contrôles internes. L'objectif est d'assainir un secteur gangréné par de mauvaises habitudes. La croissance économique poursuit sa reprise en Afrique subsaharienne. Elle devrait atteindre 3,1% à la fin de cette année, avant de se consolider à 3,6% en moyenne sur la période 2019-2020, indique la Banque mondiale. Cette embellie modérée reste toutefois inégale, avec de fortes variations entre les pays. L'Afrique du Sud a atteint en 2017 un volume commercial bilatéral avec la Chine de 39,17 milliards de dollars. Ce montant traduit une augmentation considérable des échanges commerciaux entre les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La CAF appelle au travail après l'échec des représentants africains au Mondial 2018.
Tout à fait, les pays qui ont représenté l'Afrique à la Coupe du Monde et la CAF se sont réunis à Rabat, au Maroc, pour chercher les causes de la pire participation du continent à un mondial depuis 1982. Patrice Baumel, l'adjoint d'Hervé Renard, l'a représenté pour les Lions de l'Atlas, tandis que l'Égypte et la Tunisie, désormais sans entraîneur, étaient présents avec un membre de l'encadrement technique. Aliou Cissé du Sénégal et Guénot Rod du Nigeria étaient les seuls sélectionneurs présents à Rabat. Écoutons le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé.
Il n'y a eu que 5 équipes africaines dans ce mondial-là. Donc si on doit faire une comparaison entre le gratin africain et celui d'Européen et l'Amérique du Sud, je crois qu'ils ont un peu plus, ils ont plus d'équipes que nous sur la scène internationale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à travailler là-dessus, à faire comprendre tout simplement que 5 équipes africaines, ça ne suffit pas. Il nous faudra peut-être une dizaine d'équipes africaines. Sur ces 5 équipes-là, si vous rajoutez l'Algérie, vous rajoutez le Cameroun, vous rajoutez la Côte d'Ivoire, c'est sûr et certain qu'au deuxième tour, on aura une équipe africaine.
Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga. Pour Ahmad, président de la CAF, ce bilan maigre et inquiétant doit inciter à une remise immédiate au travail en vue de Qatar 2022. Ahmad.
On a vu même l'Amérique latine aujourd'hui, pendant cette Coupe du Monde, qui personne n'a jamais cru que le CONMEBOL ne peuvent pas être présents dans les carrés final. Mais on l'a vu, c'est un signal fort. Qu'il n'y a que l'Europe, où le niveau de développement économique même est très élevé, ou qui met en place des programmes cohérents pour leur formation. La preuve même, la France aussi. Il faut accepter que la France est un des pays aujourd'hui qui produit, par la formation, par leur centre de formation, beaucoup de joueurs de talent.
Retour ici aux États-Unis pour parler de natation. Ryan Lochte a été suspendu 14 mois.
Et 8 septuples champion olympique et 16 fois champion du monde de natation, l'Américain a été suspendu pour avoir violé les règles liées au dopage, d'après l'agence américaine antidopage. C'est le nageur de 33 ans lui-même qui a attiré l'attention de l'agence en publiant le 24 mai sur les réseaux sociaux une photo de lui en pleine perfusion. La décision rétroactive à la date du 24 mai signifie que Ryan Lochte ne pourra pas participer au championnat américain cette semaine en Californie, ni au championnat du monde l'an prochain.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons par le Mali où nous retrouvons notre correspondant Kassim Traoré sur l'insécurité dans le pays à la veille des élections présidentielles de ce mois.
La campagne électorale se poursuit dans les plateaux d'Ogon. Les convois de véhicules des candidats défilent à longueur de journée. Les géants maires de la commune de Sanga se contente de les observer. Il n'a plus le choix à cause de l'insécurité. Ali Igono Dolo ne peut pas conduire son candidat dans sa commune.
La situation qu'on vit ici, c'est venu d'un malentendu. Ou bien les porte-parole auprès du gouvernement, qui est parti auprès du gouvernement, pour demander de mettre ses chasseurs ensemble pour qu'ils puissent parler de paix et comment organiser, diriger les élections. Et c'est à ce temps qu'ils sont venus brûler les motos. Ils ont tenté de les désarmer, ça n'a pas marché, donc ils ont incendié les motos. Donc c'est cette crise qui fait qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas aller faire la campagne dans cette.
Est-il possible de tenir l'élection présidentielle dans les 21 communes du cercle de Banyagara? Le préfet Sirima Kanouté répond.
Ah non, ça, dire ça, c'est être non réaliste. Nous avons pu donner les cartes sans problème parce que c'est les commissions et les membres des sous-commissions sont des ressortissants. Mais pour les élections, l'enjeu est grand. Il s'agit des agents électoraux que nous allons amener dans tous les villages et après les élections, et 11 ans après les élections, c'est au-delà de 18 heures, qu'on devrait réamener ces agents électoraux au niveau du chef-lieu d'arrondissement. Voyez, là, il y a des risques.
L'association des chasseurs d'Ana Amasawu dans le cercle de Banyagara rassure Moïse Sagara, secrétaire général de d'Ana Amasawu.
Là, nous sommes là à sensibiliser les gens d'aller retirer les cartes d'électeurs, de ne pas avoir peur. S'il y a des problèmes, si nous ne sommes pas non loin de la zone, nous pouvons vite venir au cercle. C'est pour cela que nous sommes là à sécuriser. Actuellement, nous rencontrons beaucoup de difficultés. La situation est vraiment confuse. Et si nous sommes là à lutter contre le banditisme, il y a encore d'autres encore qui pénètrent en s'habillant en tenue d'onzo pour dire qu'ils sont d'onzo qui font vraiment de n'importe quoi. Donc on est contre ça aussi.
Les partis politiques qui ont de la chance sillonnent quelques communes à l'image de la CODEM à travers le député Boukari Sagara.
On est en train de dire à la population que s'ils ne votent pas, ce n'est pas bon parce que ce n'est pas à l'État qu'ils sont en train de faire, c'est à eux-mêmes parce qu'ils ont déjà un candidat, un fils du territoire qui a fait l'école ici, qui connaît leurs difficultés, qui peut, à notre avis, aller à l'apaisement, à notre avis, finir avec le problème dans lequel nous sommes. Donc, s'ils n'ont qu'à sortir massivement pour voter pour notre candidat qui est Fusena Miongindo.
Pour le gouverneur de la région de Mopti, des dispositions sont envisagées afin de sécuriser les scrutins. Général de brigade Sid Alassane Touré.
Amener les cartes est une chose, mais la venue chercher les cartes aussi, ça en est une autre. Donc, non, les cartes sont dans toutes les communes disponibles pour la cité. Nous avons des forces à Tankabou, nous avons des forces à Dinangourou, nous avons des forces à Djungani, à Mondoro. Mais les trois premières localités, c'est des forces qui ont été installées il y a seulement 2 mois. Il y a des patrouilles qui se passent aujourd'hui dans toute cette région-là. Donc, il n'y a pas de raison que les gens, comme je l'ai dit, il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, monsieur le journaliste, il faut que les gens dominent leur peur.
Dans les falaises, à cause de la crise, plusieurs candidats ont été écondis dans le cercle de Kourou et Bankas. Et malgré les difficultés, certains ont pu franchir le Rubicon sous l'escorte de l'armée malienne. Kourou, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, Madame Annick Natacha Kouadio est responsable du réseau local des distributeurs de riz dans les régions de Béké, Ambol et Ifou, où elle coordonne le travail de plus de 400 coopératives employant des femmes et des jeunes dans les zones rurales. Elle fait partie des 22 femmes sélectionnées par le département d'État américain dans le cadre de son programme sur l'entrepreneuriat des femmes africaines. Pour elle, c'est à l'université que tout a commencé. Portrait signé Arzuma Compaoré.
Je suis Kouadio Annick Natacha, je viens de la Côte d'Ivoire. Comment je suis arrivée là? J'ai fait une maîtrise en sciences économiques. Et déjà à l'université, j'avais pour rêve de devenir entrepreneur. Avec, disons, $200, j'ai commencé à faire le commerce international. Je partais au Ghana prendre des marchandises. Je me suis rendu compte que l'agriculture était une vraie opportunité. Déjà, le riz, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est plus de 2 millions de tonnes de riz. qui doit être distribuée. Et je me suis dit, en prenant de la chaîne, depuis la production, la transformation et la commercialisation, ça pourrait véritablement créer beaucoup d'emplois. Une chose que j'ai découverte, c'est qu'il y a aussi des petites entreprises aux États-Unis. Et à ces petites entreprises, l'État américain et d'autres structures, la société civile surtout, proposent des solutions pour aider ces entreprises à se développer. Je me suis rendu compte que nous ne sommes pas seuls. Des fois qu'on voit l'Amérique, on se dit qu'on est seuls, les autres sont très en avance. Mais je me rends compte qu'on peut encore aller de l'avant. Vraiment, ça me donne de la motivation. Cette entreprise m'a permis d'avoir confiance en moi. Parce qu'au départ, on s'est dit qu'il fallait d'abord travailler pour les autres. Mais là, je me suis rendu compte que j'étais capable de créer quelque chose et aussi offrir des emplois. Parce que grâce à mon entreprise, j'emploie une dizaine de personnes qui travaillent. J'ai même des stagiaires. Et puis, on travaille, on accompagne des femmes. Elles font la production de manioc. Nous, en vendant leurs produits, ça leur permet de produire plus. Donc, ces femmes ajoutent des plus-values à leur production. Et c'est vraiment une satisfaction pour moi. Au point de vue financier, ça me permet d'être indépendante, pouvoir me réaliser, assurer l'avenir de mes enfants, mais aussi créer de l'emploi. Pour moi, c'est important. Je me dis que la vie ne se limite pas à acheter une maison, acheter une voiture, mais il faut pouvoir impacter sa génération. Nous soutenons beaucoup nos familles. C'est une priorité pour nous. Soutenir papa, maman, les autres frères. On se préoccupe de l'avenir de nos petits frères, de tous les membres de la famille. Donc, pour moi, réussir, c'est permettre la réussite de ma famille et du coup de la société.
Après le Rwanda et le Sénégal, le président chinois Xi Jinping, aujourd'hui en Afrique du Sud, pour le sommet des BRICS. Cette tournée africaine de M. Xi est l'occasion pour Pékin de confirmer son offensive diplomatique et commerciale envers le continent. Il a promis une relation gagnant-gagnant avec l'Afrique. Que signifie ce voyage de Xi Jinping sur le continent? Abdurrahman Dia a posé la question à Adama Gaye, journaliste et auteur du livre « Chine-Afrique, le dragon et l'autruche ».
C'est une chose presque prévisible, on peut s'y attendre. Et la Chine tient au Sénégal parce que ce n'est pas certainement un pays très riche jusqu'à présent en ressources naturelles, mais politiquement et diplomatiquement, c'est un pays d'influence, pour ainsi dire. Et la Chine a besoin de pousser son agenda politique le plus important, qui est celui d'une seule Chine, incluant Taïwan. Pour ce qui est de Rwanda, là aussi c'est normal. La Chine montre qu'elle s'intéresse à l'ensemble du continent et en allant voir le président Kagame, qui est à la tête d'un État qu'on peut comparer à la Chine, un État développemental, un État d'ordre, d'autorité.
La Chine est très présente au Sénégal dans plusieurs domaines, mais quand on compare le volume d'investissement dans des pays anglophones comme le Kenya, l'Afrique francophone était un peu à la traîne. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière de se rattraper ou en tout cas de montrer que la Chine sera bien présente dans le monde francophone en Afrique?
80% des investissements chinois depuis son retour sur le continent à partir du début de ce siècle sont allés vers des pays riches en ressources naturelles. Ils sont quatre, c'est l'Angola, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria et c'est le Soudan. Que ce soit le Kenya, que ce soit le Sénégal ou autre, ce sont des investissements assez faibles. De manière générale.
Alors, Xi Jinping parle de rapport gagnant-gagnant. Est-ce que l'Afrique gagne vraiment dans cette affaire?
Dans le discours, oui, parce que c'est soft, c'est doux. La Chine n'est pas dans le discours directif, n'impose pas des normes de gouvernance, de transparence. Cela étant dit, on peut quand même mettre un bémol en disant, attention, dans ce rapport gagnant-gagnant, il y a une partie qui gagne davantage. Or, cette partie qui gagne, c'est la Chine. Jusqu'à présent, la Chine a reproduit un modèle néocolonial en prenant des ressources naturelles du continent africain pour les traiter en Chine et les renvoyer sur le continent en même produit manufacturé.
Et les Occidentaux dans tout cela, est-ce qu'ils doivent avoir peur quand on voit par exemple les États-Unis mettre en garde contre les risques de dépendance de l'Afrique envers la Chine, notamment sur le plan financier?
Oui, la question est réelle, il faut la poser. Il y a un début de surendettement, de surchauffe des économies africaines provoqué par des tentations de création d'une inflation liée à des financements politiquement motivés que la Chine accorde dans des conditions obscures aux pays africains.
C'était le journaliste Adama Gaye, joint à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, environ 90 musulmans américains sont en lice cette année dans les élections de mi-mandat à travers le pays. Plusieurs d'entre eux sont démocrates et espèrent faire partie de la vague dite bleue qui changerait le contrôle du Congrès. Parmi les 13 candidats musulmans dans l'État du Michigan, un jeune médecin espère entrer dans l'histoire. Un reportage de Kane Farabo avec de nouveau Abdourahman Dia.
Il est jeune, charismatique et musulman. Un contraste frappant avec certains de ceux qui ont occupé le plus haut poste électif du Michigan. Un poste qu'Abdel Al-Sayed pensait inaccessible, notamment à cause de la façon dont il avait été traité dans le passé.
J'étais un junior au lycée. Juste après le 11 septembre, je me souviens de ce match de football. Pour la première fois, les gens m'appelaient de noms que je continue à entendre jusqu'à présent.
Mais il pourrait faire l'histoire en tant que premier gouverneur musulman américain élu du Michigan et de la nation s'il peut convaincre suffisamment d'électeurs.
Ils veulent savoir ce que je veux faire pour eux et si j'ai écouté d'abord avant de commencer à parler des choses que je veux faire. Quand ils voient ça, ils ne se soucient plus de comment tu t'appelles ou de comment tu pries.
El Sayed fait partie de plusieurs candidats en lice pour les élections primaires démocrates du 7 août dans l'État du Michigan. Mais même si les électeurs du parti choisissent El Sayed comme candidat, il doit encore gagner assez de soutien pour vaincre un adversaire républicain en novembre dans un État qui a aidé Donald Trump à remporter la présidentielle en 2016.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Georges-Léonard Sagnot pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.